J'ai envoyé une dizaine de CV, principalement en audiovisuel, dans les télés locales, etc. J'ai eu des réponses négatives, ou alors j'ai pas eu de réponse.
Lorsque j'ai terminé mes études en 1974, j'ai terminé un 30 juin, le 1er juillet, j'étais engagé dans un journal. J'avais eu le choix entre deux journaux, j'ai choisi l'un. J'étais engagé avec un contrat à durée indéterminée. C'était un des seuls métiers, déjà à l'époque, que l'on pouvait faire sans avoir le moindre diplôme. On vous mettait devant un bureau avec une feuille et on vous disait, voilà, vous rédigez ceci, vous allez sur le terrain, vous ramenez ça. Et c'était après 2-3 jours que l'on décidait si, en fonction de vos capacités et de vos compétences, vous étiez engagé.
Vous venez d'entendre Jérémy Audouard et Jean-Paul Duchâteau. L'un est un jeune diplômé en journalisme de l'ULB, l'autre est le rédacteur en chef adjoint de la Libre Belgique. Le premier est un chômeur, le second un meneur. Un peu plus de 30 ans séparent leurs réussites universitaires respectives, mais aujourd'hui c'est la crise, financière, économique, mais aussi journalistique. Une situation tristement répandue dans beaucoup de pays. François Hendricks, spécialiste des médias à l'Université Libre de Bruxelles.
La Belgique ne fait pas exception à une tendance qui est relativement générale à tout le monde industrialisé, qui est une tendance à la réduction des effectifs de journalistes et parallèlement à une pression exercée sur les journalistes pour qu'ils produisent davantage, non seulement en quantité absolue, mais aussi en diversité de contenu qu'ils vont produire.
Réduction des effectifs, pression sur les journalistes, mais aussi diminution des ressources publicitaires pour les entreprises de presse. Un dernier constat qui inquiète le marché de l'emploi, mais également la stabilité des salaires. Une situation que dénonce Jean-François Dumont, secrétaire général adjoint de l'AGJPB, l'Association générale des journalistes professionnels de Belgique.
La masse salariale devient la variable d'ajustement économique. Autrement dit, quand il y a un problème dans les recettes publicitaires, par exemple, les entreprises de presse vont avoir tendance à réajuster le bilan économique via la masse salariale. Autrement dit, soit de freiner les engagements, soit même de chercher à réduire ces coûts salariaux. Les journalistes deviennent la variable d'ajustement et évidemment, c'est très déplorable.
Dans cette lutte pour l'emploi, l'amour du métier est bien souvent le seul bouclier des journalistes. Mais comme beaucoup de choses dans la vie, la passion a elle aussi des limites, surtout quand on l'exploite. La déontologie journalistique court dans ce cas de grands risques. François Hendricks.
Malheureusement, les entreprises de presse ont souvent abusé de cette dévotion et de cette passion des journalistes pour les emmener dans des statuts d'une précarité qui est totalement incompatible avec un travail qui finalement est un travail hautement qualifié et qui est totalement incompatible aussi avec notamment des notions aussi essentielles que l'indépendance des journalistes. Si le journaliste est dans une précarité totale, il est évidemment beaucoup plus vulnérable à toute une série de pressions, y compris de sa propre hiérarchie.
Une entreprise de presse, elle est traversée toujours par deux logiques, la logique économique, et c'est légitime que cette logique existe.
Jean-François Dumont.
Il y a aussi la logique purement éditoriale, journalistique. On constate, et moi je l'observe très très clairement depuis 10 ans, un poids de la logique économique qui finit par dicter absolument à la logique éditoriale sa façon de faire, sa façon d'être, non seulement sur le contenu médiatique et sur les revenus.
On pourrait croire que ces différents constats mettent à mal la réputation de la profession. Faux, répond la JPB. La Belgique compte en moyenne chaque année 400 nouveaux diplômés en journalisme. 40 seulement trouveront dans l'année un emploi de salarié dans une rédaction. Jean-Paul Duchâteau, rédacteur en chef adjoint de la Libre Belgique, rejette la faute sur les instituts de formation qui feraient preuve pour lui d'une grande irresponsabilité.
Quand on s'engage, quand on accueille des étudiants, on doit avoir une chance raisonnable qu'ils puissent se placer dans la vie active. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir, et je crois que c'est même la plupart des cas, des étudiants qui sortent des études et qui pendant 3-4 ans ne trouvent rien, puis trouvent peut-être un petit poste de pigiste dans un journal, mais restent indépendants quelquefois pendant près de 10 ans.
Pour résoudre ce problème, il propose le système des concours à la française.
Moi, je suis un partisan très déclaré de cet examen, voire même de ce concours à l'entrée des universités. Ce serait faire preuve d'une attitude responsable pour la suite. À quoi ça sert-il de diplômer les gens qui ne trouveront pas d'emploi par la suite ?
« Selon les derniers chiffres de l'AGJPB, 3/4 des journalistes sont salariés, contre seulement 22% d'indépendants. Un statut certes précaire, mais qui permet pour beaucoup de journalistes en difficulté de garder la tête hors de l'eau. Certains même n'hésitent pas à se rassembler en collectif de journalistes à l'image de Canal Ordinaire. Cette association de fait a vu le jour en février sous l'impulsion de deux pigistes, Gilles Coistiot et Chloé Andries. Une vraie collaboration est née entre les 8 membres de l'association. Nous avons rencontré Gérald de Hemtin, l'un des membres de Canal Ordinaire.
Ils ont très vite senti la nécessité de se regrouper comme indépendants pour différentes raisons pratiques, pour une raison d'infrastructure, de contact, de convivialité professionnelle, etc. Et donc eux, ces deux fondateurs-là, ont tenté de rassembler un certain nombre de journalistes avec lesquels ils pensaient pouvoir faire du bon boulot.
Une mauvaise réputation entoure souvent cette notion de journaliste indépendant ou freelance. On en oublie souvent les avantages que ce statut peut apporter professionnellement, mais surtout psychologiquement.
Je pense qu'on trouve plus de travail quand on est réunis. Il y a une question de convivialité aussi. Il y a une certaine dynamique, on confronte nos idées. Au fond, on fonctionne un peu... Il y a la même dynamique ici au sein de Canal Ordinaire que dans une rédaction. Donc il y a un échange d'idées, une confrontation de points de vue, il y a un échange de contacts, des projets en commun qui nous permettent de nous démarquer par rapport à ce que font d'autres qui choisissent de travailler tout seuls.
Bien évidemment, il y a aussi des inconvénients.
C'est un statut précaire, hein, on ne sait jamais de quoi on vivra la semaine prochaine, le mois prochain. Les cotisations sociales tombent régulièrement, les impôts aussi, donc il faut vraiment bosser pour tenir le coup.
Les revenus des indépendants ne sont pas très élevés. Pour remédier au problème du salaire, beaucoup d'entre eux ont tendance à assurer d'autres collaborations, journalistiques ou non. François Hendricks lève le voile sur l'une d'entre elles.
Pas mal de journalistes qui travaillent et qui parfois même font carrière dans ce qu'on appelle la presse d'entreprise, le journalisme d'entreprise, qui n'est peut-être pas totalement encore en pleine maturité, mais enfin qui néanmoins, dans beaucoup de cas, a parcouru un sacré chemin depuis l'époque où les journaux d'entreprise n'étaient que la tribune de la direction et une sorte de porte-voix de la direction de l'entreprise. Il y a aujourd'hui des journalistes d'entreprise qui font un vrai travail de journaliste.
L'interactivité occupe une place de plus en plus importante dans le journalisme. Avec Internet, les reporters amateurs prospèrent. Beaucoup voient dans la création d'un blog le meilleur moyen d'informer. Mais c'est aussi une vitrine idéale pour les aspirants journalistes, Damien Van Acter, responsable des réseaux sociaux à la RTBF.
Le blog est le meilleur outil qu'on puisse utiliser à l'heure actuelle parce qu'il est le plus simple, le moins cher et le plus efficace en termes de réputation. Quand un journaliste ou un futur journaliste veut montrer ce qu'il sait faire, ouvrir un blog, c'est la première chose qu'il doit faire.
Avec l'apparition de nouveaux moyens d'informer, le rôle du journaliste évolue. Avec le succès toujours plus grand en Internet, l'importance de la remise en perspective de l'information est plus que jamais nécessaire. À l'heure de la consommation de l'information brute, Ricardo Gutiérrez, journaliste au Soir, nous explique l'évolution du travail de journaliste.
On est confronté à une masse d'informations invraisemblables, et donc peut-être que la fonction du journaliste évolue, a changé. Avant, on était plus des relais d'une information qu'on ne trouvait pas ailleurs. Aujourd'hui, l'information, on la trouve partout. Et donc notre rôle change, c'est plus simplement de relayer une information qui de toute façon est là, tout citoyen, en se connectant à l'Internet, à tout ce qu'il veut. Mais est-ce que ce qu'il trouve est fiable ou pas? Est-ce que ce qu'il trouve est hiérarchisé ou pas? Est-ce que ce qu'il trouve est expliqué ou pas? Est-ce qu'on a montré les tenants et aboutissants des choses? Est-ce que peut-être on a fait un travail qui consistait à voir l'information apparente? Et en ça, le rôle du journaliste est plus que jamais nécessaire.
Si le journaliste veut espérer pouvoir travailler dans un média, il doit être capable de contextualiser l'information. Une chose pas toujours facile, surtout quand on débute dans le métier. Avec leur expérience et leur bagage, les anciens reporters sont plus à même de remplir ce rôle. Cela dit, il reste des places. Ceux qui disent que le métier est bouché se trompent. C'est l'avis de Jean-François Dumont.
Il faut avoir deux attitudes. À la fois avoir un discours de vérité sur l'état du métier et dire comment sont les choses. Il faut arrêter de mythifier le métier. Mais à la fois, on ne peut pas casser les rêves, on ne peut pas casser les projets professionnels. Des journalistes, il y en aura encore. Et donc, je serais prêt à dire à des jeunes, oui, si vous avez ça dans les tripes et dans le cœur, ben pourquoi est-ce que vous ne seriez pas parmi les 40 ou les 50 journalistes qui trouvent un emploi chaque année dans ce pays ?
Cela peut donc être aussi une question de motivation. Avec une énergie suffisante, il est toujours possible d'accéder au métier. Mais rien n'est joué d'avance. François Hendricks, professeur à l'ULB, nous le rappelle.
Quel que soit le manque de débouchés et la précarité des emplois qui sont offerts, il n'en reste pas moins que les étudiants et donc les diplômés qui ont du talent, qui sont motivés, qui font bien leur boulot, ceux-là trouvent toujours du travail et du travail de qualité dans des médias de qualité avec un statut tout à fait acceptable. Ceux qui commencent des études en journalisme en se disant « il suffit de réussir mes études et je serai journaliste », ceux-là se trompent. Mais à l'inverse, ceux qui pensent que le secteur est tellement bouché et tellement précarisé que quels que soient leurs efforts, tout ça ne marchera jamais et que de toute façon, ils devront faire autre chose après, ceux-là se trompent aussi.
On l'a compris, le secteur n'est pas complètement bouché. S'il doit dès maintenant s'investir dans le métier, un étudiant peut toujours espérer accéder à la profession. Pour terminer, quelques conseils des différents intervenants de cette enquête.
Le premier, ce serait de ne pas rêver son avenir. Autrement dit, je veux dire par là que si on rêve d'être riche, célèbre, de courir le monde, d'être celui qui va faire le nouveau scoop du type Watergate, etc., il faut pouvoir à un moment sortir de cette espèce de rêve adolescent et puéril de la mythologie cinématographique. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de ne pas attendre la fin de ses études en se disant qu'un emploi va venir comme ça, tomber tout cuit dans les mains.
Moi, je conseille toujours, a priori, de commencer à travailler au niveau d'une rédaction locale, même d'un petit journal, parce que c'est là, finalement, où on sera confronté à la plus grande diversité de tâches, et c'est là où on sera amené à prendre le plus de responsabilités le plus vite, hein. Ou même un site web, un peu bricolé, comme ça, entre amis, parce que c'est ça qui vous permettra, je veux dire, de glaner cette expérience qui fera à un moment donné votre connaissance dans le métier, quoi. Donc il y a une forte dimension aussi dans le métier de reconnaissance par les pairs. C'est pas tellement le diplôme qui compte.
Le conseil que je pourrais donner, c'est de ne plus, en tout cas exclusivement, suivre des études de journalisme. Le modèle qui m'apparaît approprié à l'évolution telle qu'on vient de la décrire, c'est un modèle où on fait d'abord un master en droit, en économie, en sciences politiques internationales, européennes, où l'on se dote de capacités de langue aussi, c'est devenu indispensable. Et puis, après cela, si on se sent vraiment attiré par le métier, c'est d'entamer les années complémentaires pour effectivement avoir le diplôme de journaliste.
Si on fait ce métier sans passion, alors il vaut mieux ne pas le faire parce qu'on sera très vite déçu, heurté par la dureté de ce métier, même au point de vue physique, au point de vue des horaires. Je pense que s'ils ont la flamme, ils doivent y aller. Parce que quand on a une passion et qu'on ne la réalise pas, on est malheureux à vie.